Eh bien, monsieur, me dit-elle.
Monsieur Regnault vous a sans doute rabâché son histoire de la grande bretèche.
Oui, merlepas. Que vous a-t-il dit?
Je lui répétais en peu de mots les ténébreuses et froides histoires de madame Méret. À chaque phrase, mon hôtesse tendait le cou en me regardant avec une perspicacité d'aubergiste, espèce de juste milieu entre l'instinct du gendarme, l'astuce de l'espion et la ruse du commerçant. « Ma chère dame Lepas, ajoutai-je en terminant, vous paraissez en savoir davantage, hein? Autrement, pourquoi seriez-vous monté chez moi? »
Ah, foi d'honnête femme, et aussi vrai que je m'appelle Lepas, ne jurez pas, vos yeux sont gros d'un secret, vous avez connu monsieur de Méret, quel homme était-ce?
Dame, monsieur de Méret, voyez-vous, était un bel homme qu'on ne finissait pas de voir, tant il était long, un digne gentilhomme, venu de Picardie, qui avait, comme nous disons ici, la tête près du bonnet. Il payait tout comptant pour n'avoir de difficulté avec personne, voyez-vous, il était vif. Nos dames le trouvaient toutes fort aimables.
Parce qu'il était vif, dis-je à mon hôtesse.
Peut-être bien, dit-elle. Vous pensez bien, monsieur, qu'il fallait avoir eu quelque chose devant soi, comme on dit, pour épouser madame de Méret, qui, sans vouloir nuire aux autres, était la plus belle et la plus riche personne du Vendômois. Elle avait aux environs de 20 000 livres de rente. Toute la ville assistait à sa noce. La mariée était mignonne et avenante, un vrai bijou de femme. Ah, ils en ont fait un beau couple dans le temps.
Ont-ils été heureux en ménage?
Eux, oui et non.
Autant qu'on peut le présumer, car vous pensez bien que nous autres, nous ne vivions pas à peau et à roue avec eux. Madame de Méret était une bonne femme, bien gentille, qui avait peut-être bien à souffrir quelquefois des vivacités de son mari, mais quelqu'un un peu fier, nous l'aimions. Bah, c'était son état, à lui, d'être comme ça quand on est noble, voyez-vous.
Cependant, il a bien fallu quelques catastrophes pour que monsieur et madame de Méret se séparassent violemment.
Je n'ai point dit qu'il n'y avait eu de catastrophe, monsieur, je n'en sais rien.
Bien, je suis sûr maintenant que vous savez tout.
Eh bien, monsieur, je vais tout vous dire. En voyant monter chez vous monsieur Regnault, j'ai bien pensé qu'il vous parlerait de madame de Méret, à propos de la grande bretèche. Ça m'a donné l'idée de consulter monsieur, qui me paraît un homme de bon conseil et incapable de trahir une pauvre femme comme moi, qui n'ai jamais fait de mal à personne et qui se trouve cependant tourmentée par sa conscience. Jusqu'à présent, je n'ai point osé m'ouvrir aux gens de ce pays-ci. Ce sont tous des bavards à langue d'acier. Enfin, monsieur, je n'ai pas encore eu de voyageur qui soit demeuré si longtemps que vous dans mon auberge et auquel je puisse dire l'histoire des 15 000 francs.
Ma chère madame Lepas, lui répondis-je en arrêtant le flux de ses paroles, si votre confidence est de nature à me compromettre, pour tout au monde, je ne voudrais pas en être chargé.
Ne craignez rien, dit-elle en m'interrompant, vous allez voir. Cet empressement me fit croire que je n'étais pas le seul à qui ma bonne aubergiste eût communiqué le secret dont je devais être l'unique dépositaire. Et j'écoutais.
Monsieur, dit-elle, quand l'empereur envoyait ici des Espagnols, prisonniers de guerre ou autres, j'eus à loger, au compte du gouvernement, un jeune Espagnol envoyé à Vendôme sur parole. Malgré la parole, il allait tous les jours se montrer au sous-préfet. C'était un grand d'Espagne. Excusez du peu, il portait un nom en os et en dia, comme Bagos de Ferredia, j'ai son nom écrit sur mes registres. Vous pourrez le lire si vous voulez. Oh, c'était un beau jeune homme pour un Espagnol, qu'on dit tous les... Il n'avait guère que 5 pieds, 2 ou 3 pouces, mais il était bien fait. Il avait des petites mains qu'il soignait. Ah, fallait voir! Il avait autant de brosses pour ses mains qu'une femme en a pour toutes ses toilettes. Il avait de grands cheveux noirs, un œil de feu, un teint un peu cuivré, mais qui me plaisait tout de même. Il portait du linge fin, comme je n'en ai jamais vu à personne, quoique j'ai logé des princesses, et entre autres, le général Bertrand, le duc et la duchesse d'Abrantes, monsieur Decazes et le roi d'Espagne. Il ne mangeait pas grand-chose, mais il avait des manières si polies, si aimables, qu'on ne pouvait pas lui en vouloir.
Oh, je l'aimais beaucoup, quoiqu'il ne disait pas 4 paroles par jour, et qu'il fût impossible d'avoir avec lui la moindre conversation. Si on lui parlait, il ne répondait pas. C'était un tic, une manie qu'ils ont tous, à ce qu'on m'a dit. Il lisait son bréviaire comme un prêtre, il allait à la messe et à tous les offices régulièrement. Où se mettait-il? Nous avons remarqué cela plus tard, à 2 pas de la chapelle de madame de Méret.
Comme il se plaça là dès la première fois qu'il vint à l'église, personne n'imagina qu'il y eût de l'intention dans son fait. D'ailleurs, il ne levait pas le nez de dessus son livre de prière, le pauvre jeune homme. Pour lors, monsieur, le soir, il se promenait sur la montagne, dans les ruines du château. C'était son seul amusement à ce pauvre homme. Il se rappelait là son pays. On dit que c'est tout montagne en Espagne. Dès les premiers jours de sa détention, il s'attarda. Je fus inquiète, en ne le voyant revenir que sur le coup de minuit. Mais nous nous habituâmes tous à sa fantaisie. Il prit la clé de la porte et nous ne l'attendîmes plus. Il logeait dans la maison que nous avons dans la rue des Casernes. Pour lors, un de nos valets d'écurie nous dit qu'un soir, en allant faire baigner les chevaux, il croyait avoir vu le Grand d'Espagne nageant au loin dans la rivière comme un vrai poisson. Quand il revint, je lui dis de prendre garde aux herbes. Il parut contrarié d'avoir été vu dans l'eau. Enfin, monsieur, un jour, ou plutôt un matin, nous ne le trouvâmes plus dans sa chambre, il n'était pas revenu. À force de fouiller partout, je vis un écrit dans le tiroir de sa table, où il y avait 50 pièces d'or espagnoles, qu'on nomme des portugaises, et qui valaient environ 5 000 francs. Puis des diamants, pour 10 000 francs, dans une petite boîte cachetée. Son écrit disait donc qu'au cas où il ne reviendrait pas, il nous laissait cet argent et ces diamants, à la charge de fonder des messes, pour remercier Dieu de son évasion et pour son salut. Dans ce temps-là, j'avais encore mon homme qui courut à sa recherche, et voilà le drôle de l'histoire. Il rapporta les habits de l'Espagnol, qu'il découvrit sous une grosse pierre, dans une espèce de pilotis sur le bord de la rivière, du côté du château, à peu près en face de la grande bretèche. Mon mari était allé là si matin que personne ne l'avait vu. Il brûla les habits après avoir lu la lettre, et nous avons déclaré, suivant le désir du comte Feredia, qu'il s'était évadé. Le sous-préfet mit toute la gendarmerie à ses trousses, mais brust, on ne l'a point rattrapé. Le pas a cru que l'Espagnol s'était noyé. Moi, monsieur, je ne le pense point. Je crois plutôt qu'il est pour quelque chose dans l'affaire de Madame de Méret, vu que Rosalie m'a dit que le crucifix, auquel sa maîtresse tenait tant qu'elle s'est fait ensevelir avec, était d'ébène et d'argent. Or, dans les premiers temps de son séjour, M. Feredia en avait un d'ébène et d'argent que je ne lui ai plus revu. Maintenant, monsieur, n'est-il pas vrai que je ne dois point avoir de remords des 15 000 francs de l'Espagnol et qu'ils sont bien à moi ? Certainement. Mais vous n'avez pas essayé de questionner Rosalie, lui dis-je. Oh, si fait, monsieur. Que voulez-vous ? Cette fille-là, c'est un mur. Elle sait quelque chose, mais il est impossible de la faire jaser. Après avoir encore causé pendant un moment avec moi, mon hôtesse me laissa en proie à des pensées vagues et ténébreuses, à une curiosité romanesque, à une terreur religieuse assez semblable au sentiment profond qui vous saisit quand nous entrons à la nuit dans une église sombre où nous apercevons une faible lumière lointaine sous des arceaux élevés. Une figure indécise glisse. Un frottement de robe ou de soutane se fait entendre. Nous avons frissonné. La grande bretèche et ses hautes herbes, ses fenêtres condamnées, ses ferments rouillés, ses portes closes, ses appartements déserts, se montra tout à coup fantastiquement devant moi. J'essayais de pénétrer dans cette mystérieuse demeure en y cherchant le nœud de cette solennelle histoire, le drame qui avait tué 3 personnes. Rosalie fut à mes yeux l'être le plus intéressant de Vendôme.